Les Controverses du Village, épisode numéro 13. Aujourd'hui, on va parler de ces séries qu'on a tellement aimées pendant une saison, deux saisons, plusieurs saisons, et puis qui, un jour, voilà, sont parties en sucette. C'est le drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? C'est le sujet du débat du jour. Avec moi aujourd'hui, Dominique Montet.
Bonjour.
Émilie Flamand.
Bonjour.
Le petit nouveau Nicolas Robert.
Bonjour.
Nicolas.
Et c'est toujours moi, Sullivan Le Postec. Et donc on va vous parler aujourd'hui de ces séries qui sont parties de travers à un moment donné, qu'on aimait vraiment beaucoup et puis qu'on s'est mis à vraiment plus aimer du tout. Ça arrive finalement souvent sur les séries américaines, puis sur les séries anglaises ou françaises.
Elles ont
exactement beaucoup moins d'épisodes. Elles ont moins d'occasion de partir en sucette. Ouais. Malgré tout, ça arrive quand même. Et alors évidemment, ceux qui nous lisent un peu régulièrement se doutent un petit peu du sujet qui nous a amené à choisir ce thème pour le podcast, parce qu'ils ont suivi cet automne Dominique qui, dans la douleur, publiait ses reviews de Misfits semaine après semaine.
C'était vraiment très très dur de faire les reviews de Misfits cette année, parce que comme on le disait, en fait, le problème c'est pas tant de ne pas aimer une série, c'est d'un seul coup de ne plus du tout aimer une série qu'on a aimée auparavant. On ne voit plus que ses défauts, alors qu'avant on les oubliait très simplement. Et pour ce Misfits, c'est vraiment un exemple criant. D'un seul coup, tout est parti à volo.
Ouais, c'est spectaculaire, c'est que... Enfin... Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent mais je comprends pas pourquoi, enfin qui trouvent que c'est un peu pareil qu'avant, mais pour moi il y a quasiment plus rien de commun avec avant, quoi. Je trouve plus rien de la série que j'aimais. Dans les deux premières saisons il y avait un fil rouge qui a jamais été le point fort de la série. La première saison c'était la nouvelle contrôleuse judiciaire qui était la femme du premier tuée, qui enquêtait dans l'ombre pour essayer d'accuser nos compères. Dans la deuxième, c'était un peu plus centré sur...
Le voyage temporel.
Sur le voyage temporel et sur le mystérieux ninja kung-footer qui les sauvait de temps en temps. Et la troisième saison, y a rien, quoi.
Enfin,
on reparle dans deux épisodes du ninja kung-footer, on parle du nouveau personnage de Seth, mais ça s'arrête deux épisodes avant la fin de la saison. Donc... aucune impression d'avoir la moindre cohérence d'intrigue sur ces 8 épisodes. Il avait dit en fait dans ses interviews, mais j'avais relu après la saison, parce que qu'il y avait deux arcs dans la saison en fait.
Ah ouais.
Ouais. Et moi quand j'avais lu son interview à l'époque au printemps, j'avais compris qu'il y avait un premier arc de 4 épisodes et un deuxième arc de 4 épisodes. Et du coup c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est pas possible, parce qu'au printemps c'était écrit quand même, enfin au moins le début. Et donc du coup, ce qu'il devait vouloir dire, c'est qu'effectivement, pour lui, le premier arc, c'était l'histoire de Seth. Et le deuxième arc, c'était l'histoire de Ninja Kung-Fu du futur, quoi. Mais c'est fou que c'est pas des arcs, enfin,
Non, c'est pas des arcs, en effet, il en a parlé, mais tellement mal, et on le reprend, on le relâche, enfin... Il n'y a pas de suivi, le personnage de Seth, il fait que suivre, au final. Il subit tout,
Et puis surtout qu'en plus, au premier épisode de la saison, enfin, on a tout compris, quoi.
Oui.
On a compris parfaitement quel pouvoir il recherche, pourquoi.
Bien sûr.
Enfin, donc, du coup, on n'a plus rien à apprendre, avant su où ça se résout à la fin de la saison.
Il n'y a aucune surprise.
C'est encore pire qu'un fil rouge de Mark Cherry où au cinquième épisode de la saison, tu as tout compris qui était le tueur dans Desperate Housewives et tout. Il faut quand même attendre l'épisode 22 pour avoir la réponse. Quoi.
Le truc avec la saison 3 de Misfits, c'est quand même, c'est pas devenu totalement mauvais d'un coup. Il y avait des prémices dans la saison 2, on pouvait s'attendre. D'ailleurs, c'était même les grandes craintes. On se disait, mince, qu'est-ce qu'ils vont faire après ça, étant donné qu'à chaque fois que la série prenait de l'ampleur et essayait de donner une dimension épique, elle se foirait lamentablement. tout l'aspect sur le voyage du retour dans le passé, du Simon du futur, on ne sait pas pourquoi il revient. Et même quand il a fini, si on décortique toutes ses actions une par une, sa venue dans le passé n'a strictement aucun sens.
Si jamais vous n'avez pas lu la critique de Midfield de la saison 2 par Dominique, il y a un passage à mourir de rire où Dominique pose sur la table et vraiment décortique analytiquement l'intrigue du voyage dans le temps. Et donc ça fait tellement pas de sens que c'est à crever de rire, je vous jure, faut pas manquer ça.
Voilà, donc je vous conseille de le relire. En gros, c'est la meilleure méthode de drague au monde. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Et le problème, c'est que ma grosse connerie, c'est plus ou moins ce que justifie la saison 3 de Misfits. C'est-à-dire, et en même temps, dans un sens, il pouvait pas le justifier différemment. Alors il y avait deux possibilités. Soit il évacuait complètement ce truc, il le mettait de côté, et il disait « Non, c'est pas arrivé, faites pas attention ». On a raconté ça à un moment, mais c'est pas grave. Soit il revenait dessus, et il faisait forcément quelque chose de pas satisfaisant. Et j'ai l'impression qu'il est obligé de faire ça à cause du fait que les personnages de...
Les
comédiens d'Alisha et Simon quittaient la série à la fin de la saison 3. Quoi.
Et donc à côté du fil rouge, finalement Misfits, on l'avait beaucoup aimé pour ses épisodes indépendants, enfin ses intrigues individuelles. Moi, c'est partie des meilleurs souvenirs de la série. Il y a des moments comme ça dans la première saison, Nathan avec la fille qui avait rajeuni, Kelly avec le gorille. Mais c'était super frappant, enfin plein de bonnes intrigues comme ça, quoi. Il y a juste en 8 épisodes, donc plus que d'habitude, aucune bonne intrigue de toute la troisième saison.
Non, mais c'est pour dire, le meilleur épisode de la troisième saison concerne le personnage le moins intéressant, celui qu'on brocarde depuis le début de la série, c'est le personnage de Curtis, qui est insupportable en fait, hein, qui a pas d'intérêt, et au final, quand on regarde, c'est l'épisode le plus réussi. Mais bon, c'est un petit peu en comparaison avec les autres. Hein.
C'est ça, parce qu'en plus, si tu le voyais qu'individuellement...
Oui, je suis pas certain que ça soit...
C'est pas inintéressant, mais non. C'est vrai que c'est vraiment le béaba de base du cliché du changement. Enfin, t'as le droit à tous les clichés liés à ce type d'intrigue. Et puis voilà, il prend conscience de la dure condition féminine. Genre, le message est parfaitement intéressant,
ouais, voilà.
Mais c'est vraiment bien lourd. Enfin, c'est écrit par un mec déjà.
Et ça se voit, quoi.
Un mec aurait besoin de devenir une femme pour savoir ce que c'est que la condition féminine. C'est un très très fin, quoi. Mais moi, le pire. Enfin. Moi, je peux pas voir cette saison-là sans penser à un sabotage conscient. C'est horrible, mais c'est comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'à la fin de la saison 2, quand Howard Overman décide de bazarder tous les pouvoirs et de remettre des nouveaux, il dit juste « Eh les gars, j'ai plus rien à raconter là. Je suis à sec. » Et en plus, derrière, tu as donc l'acteur qui joue le personnage de Nathan, qui se barre. C'est un petit peu en plus sa facilité, ce personnage-là. Dès que ses scénarios traînent un petit peu en longueur, allez hop, j'utilise ce personnage-là.
Nathan Shaw et c'était reparti.
Voilà. Et là, il l'a plus. Donc il se retrouve obligé de recréer un Nathan. Un bide lamentable. Le personnage est vraiment pas intéressant.
Pour le coup, je pense aussi que du coup, ils ont. Il y a une part de ça qui est plus ou moins pas leur faute, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que. Comment il s'appelle ? Robert Sheehan est parti vraiment très tard.
Oui.
Et parce que donc en gros, enfin je pense qu'au moment où, enfin au moment de la diff, il devait pas forcément le savoir qu'il revenait pas. Et au moment de la diff d'une saison, quand il faut que la saison d'après elle arrive dans un an, l'écriture de la saison d'après est déjà bien lancée, quoi. Donc je pense qu'ils ont en gros plusieurs scripts décrits avec Nathan dedans et qu'ils se rendent compte que, enfin là ils annoncent les désirs légaux, je signe pas pour la saison prochaine, quoi. Qui vont mauvaises, qui se voient dans le premier épisode. Bien.
Énormément, ouais.
et que du coup il fait la connerie de se dire plutôt que de vraiment réécrire ses scripts, il change le nom, quoi. J'en suis d'autant plus persuadé, enfin je suis absolument persuadé en fait, peut-être que je me trompe et qu'un jour on prouvera le contraire, que si Sheehan était revenu, il avait le pouvoir de se dédoubler en fait. C'est à ce point là.
Oui, non mais clairement.
Je suis persuadé que vraiment, il a que changé le nom du mec dans le script, toi. Et le premier épisode, il a réécrit un peu parce qu'il fallait introduire le nouveau personnage. Mais que sinon, les épisodes d'après, c'est vraiment les répliques de Sheehan qu'il a, qu'il a collé au nouvel acteur et démerde-toi avec ça, quoi. Non, et voilà, et c'est impossible.
J'espère surtout pour l'acteur qui joue Rudy qu'ils avaient eu le temps de changer dans tous les scripts le prénom de Nathan par Rudy, sinon ça aurait été un petit peu...
Un peu humiliant, ouais.
Ouais, ce qui m'a aussi frappé dans cette saison-là, c'est le peu de respect qu'a Howard Overman pour ses personnages, en fait. Il leur fait changer de personnalité dès qu'ils en ont besoin, dès qu'il en a besoin. Donc, alors ça va de l'épisode infamant du voyage dans le temps avec Hitler, qui est juste une catastrophe au niveau du traitement des personnages. Il n'y a aucun personnage qui a son caractère de base de la série, alors que rien d'autre n'a changé. Eux, ils sont toujours là, au même endroit, c'est juste voilà, leur personnalité n'est plus du tout les mêmes.
Pour le coup, c'est vraiment le what if, voilà. L'univers dystopien, débile, vraiment raté, quoi.
Non, mais complètement. Et puis, on a Simon en collabo forcé. Bon, il est forcé, mais il est quand même collabo. Et on a
Curtis en résistant. Héros de la résistance.
Ça, je m'en remets pas, quoi.
Ça, c'est frappant aussi, c'est que malgré tout, dans les deux premières saisons, je croyais qu'il la tenait vraiment bien, la caractérisation des personnages.
Oui.
Ça m'avait donné cette impression-là, quoi. Alors, il y avait quelques écarts, rétrospectivement, ou même on les avait notés à l'époque. Je me rappelle du histoire de Nathan et de jeux vidéo quand oui. C'est Kelly qui a été enlevé
oui, exactement.
Et qui se mettait à faire une partie de c'était enfin tu dis non quoi le non, il non. Est con le personnage mais pas à ce point là il y avait des petits trucs comme ça, mais globalement je pensais quand même qu'il tenait bien ses personnages. Et là tu te rends compte qu'avec les saisons 3 avec la saison 3 il les tient pas du tout, quoi. Et que ce qui a fait les personnages des deux premières saisons qu'on a tellement aimé, c'est juste qu'ils ont eu un cul infernal au moment du casting.
Non, mais c'est exactement ce que je me disais, c'est que plus que des personnages bien écrits, c'est vraiment des acteurs. Super comédiens, après c'est des caractères acteurs, c'est-à-dire c'est pas évident que ces comédiens là puissent faire autre chose différent, mais ils le font tellement bien et c'est tellement passionnant. Et puis c'est tellement engageant, quoi. Enfin, t'as envie de les suivre, hein, malgré tout ce qu'ils font, parce que c'est franchement limite tout ce qu'ils font.
Le boulet Curtis aussi.
Oui.
Le fait que juste là ils ont un acteur normal qui ne transcende pas son rôle. Exactement, et ben du coup il n'y a rien, quoi. Et du coup ce mec a jamais eu de personnalité en 3 saisons.
Parce que ça, oui, ça se voit comme un nœud au milieu de la figure, les autres personnages qu'ils ont apporté leur vécu. Peut-être un peu moins celle qui joue Alicia, il y a peut-être plus une notion de composition dans son rôle, mais alors que ça soit Kelly ou Simon ou Nathan, tu sens que c'est en eux déjà au naturel.
Clairement. Et puis voilà, et puis cette saison 3, globalement, de quoi je vais me souvenir dans un an, de mon ennui mortel, du fait que je me suis enfui des 4 épisodes à la suite, c'était le seul moyen de finir cette saison un jour, et sinon rien, alors que les deux premières saisons, des moments mémorables, j'en ai des tonnes.
Et c'est ça qui est horrible, c'est que... Dans une série qui est fun, qui est agréable, limite ce genre de défaut, on se dit bon allez, tant pis. C'est un guilty pleasure, je vais me fader ça parce que c'est marrant, parce que c'est engageant, parce qu'il y a de l'action. Mais le problème, c'est que
tant que j'ai une fois de temps en temps la scène du placenta, par exemple.
Exactement, ça me va très bien.
Et là, cette année, pas de scène du placenta.
Il n'y a pas de scène comme ça, il y a juste des moments un peu délire. Quand il y a les cheerleaders zombies, mais c'est tellement crétin et c'est tellement. J'ai eu l'impression de voir ça, mais des millions de fois.
C'est ça, ça arrive après juste. Enfin, 5 ans de zombies maniaques.
Oui, là, c'est vraiment. Mais dis donc, mais les zombies, c'est à la mode, tiens.
Ouais.
Je vais faire les zombies à mon style, puis ça va faire marrer tout le monde, ça va être génial.
Avec du coup, ce truc. Enfin, il y a cette histoire, effectivement, de nouveaux pouvoirs aussi, quoi.
Ah, putain.
Et c'est putain de pétard mouillé, quoi. Donc, juste les pouvoirs ne servent à jamais à rien dans toute la saison, quoi. C'est-à-dire que, Alicia, il y a deux fois en 8 épisodes où elle se sert vaguement de son pouvoir. Ah ouais, il est à cet endroit-là, super génial, quoi.
Et en plus, à chaque fois qu'ils sont obligés, ils se sentent obligés à chaque fois de redire. Et au fait, quoi, sers-toi de ton pouvoir qui te permet de voir à travers les yeux des autres. Parce qu'il est tellement pas mémorable, ce pouvoir, qu'il faut le répéter à chaque fois, quoi.
Simon, son pouvoir est de s'en servir deux fois, dont une fois juste parce qu'il fait des galipettes et se rend compte qu'il arrête, donc il va tomber, quoi. Ok, il y a des enjeux, là, c'est ouf. Curtis, finalement c'était le meilleur de tous ses pouvoirs parce que ça lui permet de s'enfuir, genre de truc.
Il y a quelques
utilisations narratives du pouvoir et puis ils font
ça fait un épisode plutôt correct là-dessus. Ouais.
Donc pourquoi pas, sauf que lui très vite il rechange de pouvoir.
Voilà.
Et là il a le pouvoir de la mort qui tue quand même.
T'as bien choisi tes mots en plus.
Il fait des jets de shampoing doux ?
Non, c'est encore pire que ça. Il peut ressusciter les morts. Mais sauf que s'ils sont ressuscités, ils sont transformés en zombies sanguinaires qui peuvent mordre les autres et les transformer aussi en zombies. Donc s'ils ressuscitent un mort, ils causent la destruction de la planète.
Ce qui n'empêche pas, à un moment, une fois qu'il a transformé 15 000 personnes en zombies, après que quelqu'un soit mort, de dire si vous voulez, je peux le faire revivre.
Non, ta gueule. Je sais pas si tu te souviens, mais à l'épisode d'après, la planète a failli disparaître à cause de toi.
Ouais, finalement, le pouvoir de se dédoubler de Rudy a donné lieu à 2-3 trucs assez intéressants. Je pense que là, c'est pas vraiment un problème de personnage, c'est juste de traitement. Je pense qu'il est complètement passé à côté de son truc parce que l'idée d'en faire un personnage à moitié pourri qui profite des gens et à moitié sympathique et qui est tout le temps dans l'empathie, ça aurait pu être intéressant. C'est juste qu'à mon avis, il a juste raté son coup, quoi.
Ouais, puis j'aime plutôt bien l'acteur, Jodie Lung.
Ah oui, non, mais
je le trouve pas à la hauteur de ça, quoi. Les deux personnages, il les fait jamais exister. Je sais pas en le voyant si c'est l'un ou si c'est l'autre.
En plus, Jodie Lung, il passe son temps à faire des grimaces sans arrêt. Il surjoue du début à la fin de la série. On a vraiment l'impression qu'il essaie de surcompenser quelque chose qu'il n'a pas au naturel, qui fait que Robert Sheehan était particulier, quoi. Cette outrance, cette façon qu'il a de dire des saloperies toutes les 3 secondes.
Et que lui, il faisait effectivement passer. Enfin, t'avais l'impression que c'était normal, en fait.
Oui, voilà.
Qu'un mec se fout à poil et se badigeonne de crème, normal. Et lui, il peut pas, effectivement.
Non.
C'est pas. Là, pour le coup, mauvais casting aussi. De remplacer un personnage par un autre à l'identique.
Là pour le coup on touche du doigt le personnage en fait un peu irremplaçable en fait. C'était pas possible. Il était tellement utile au scénario, tellement utile à l'histoire et au scénariste surtout que l'enlever, alors que globalement, sur la mythologie principale, le personnage de Robert Sheehan n'a aucune influence sur personne. C'est assez incroyable d'ailleurs, hein. C'est un personnage inutile. Techniquement tu peux l'enlever de la narration. Le problème c'est que tu peux pas l'enlever d'histoire. La preuve.
Quand on nous écoute, on se dit que c'est la catastrophe à tous les niveaux, quand même.
Ah oui, non, mais
c'est les Ricards.
C'est un accident de train.
C'est vraiment...
Au cas où vous n'auriez pas compris, ni Nicolas ni moi n'avons vu la saison 3 de Miss Fitz. D'ailleurs, moi, j'ai pas vu non plus la 2, toujours pas. Et Nicolas, je crois qu'il n'a vu aucune des saisons non plus. C'est pour ça que vous ne nous entendez pas participer.
Et nous, on saccage bien le truc pour éviter qu'il la regarde un jour.
C'est ça. Voilà, non, mais là, c'est sûr. Maintenant, je vais m'arrêter où j'en suis.
La 2, faut la voir quand même. Ça
la
2
est bonne.
Et tu considères que la 2, ça se termine sur une fin ouverte et c'est très bien comme ça.
Oui, tout à fait.
Mais il prévoit quoi? Il prévoit une quatrième
oui,
saison.
C'est renouvelé pour une quatrième saison.
Génial.
Sachant qu'en plus, du coup, il y a deux acteurs encore qui se barrent à la fin de la troisième. Alors et que donc, du coup, il leur reste trois acteurs. Il
donc
leur reste...
Curtis, en plus, comme personnage, à tous
donc
les coups.
Il leur reste Curtis. Mais Curtis ne partira jamais.
Curtis a trouvé son état de fonctionnaire chez Miss Fitz, c'est ça.
Exactement.
Alors, il leur reste Curtis avec son méga pouvoir qui va leur servir vachement de ressusciter les morts et les transformer en zombies. Il leur reste Kelly qui a le pouvoir d'avoir une intelligence de... Enfin, qui est rocket scientist. Je sais pas encore compris, c'est un super pouvoir, mais c'est pas grave.
Franchement, je fais un pronostic. Elle part l'an prochain. Voilà. Moi, à mon avis.
Ouais. Et donc, le nouveau, Rudy qui peut se dédoubler, c'est génial.
Et
j'imagine qu'ils vont intégrer Seth et que dans le premier épisode, il va faire une connerie et qu'il va se retrouver envoyé aux travaux. Ça, c'est pareil en fait. C'est pas possible. À la fin de la saison 2, ils finissent leurs travaux d'intérêt généraux, quoi.
Ouais.
Et dans les 5 minutes du season première de la saison 3, ils refont une connerie. Retournez aux travaux d'intérêt généraux, mettre votre costume orange parce que je sais pas quoi faire d'autre avec vous. Mais comment on peut avoir aussi peu d'imagination, aussi peu d'envie. Enfin, je veux dire.
C'est le syndrome Prison Break. Tu les mets en prison, tu les fais sortir de la prison, l'année d'après, tu les remets en prison.
Oui, mais Prison Break,
ça s'appelait Prison Break en fait.
C'est vrai.
Là, ça s'appelle Misfits. Enfin, ça s'appelle pas les Misfits qui sont en travaux d'intérêt généraux. Quoi. Enfin,
c'est... Oui, mais c'est pour pas changer la photo. Ils ont investi dans les costumes orange et voilà.
Non, puis ce qui est frappant quand même, c'est qu'ils ont mis 13 épisodes à foutre le truc en l'air. 13 épisodes, c'est quand même pas monumental, quoi. Enfin.
On arrête, hein. Parfois on fait pire chez nous.
Mais on nous sait dès l'épisode 1, mais ça.
C'est dès l'épisode 1, voilà.
Ah, l'histoire des tenues oranges, je peux comprendre qu'ils veuillent les garder. Mais pourquoi est-ce qu'ils gardent pas leurs tenues oranges pour faire leur travail de super-héros? Et comme ça, tout le monde croirait que c'est des mecs du centre qui font ça, et en fait, qu'ils en seraient déjà sortis. Enfin, une connerie comme ça, je veux dire, c'est juste ce que j'ai pondu en 2 secondes et demie, quoi. Et lui, il a pas été capable de les payer pour ça. Overman, qu'est-ce que tu fous?
Ah oui, non, mais on se le demande toute la saison 3, c'est fou. Très honnête.
Ah mais ouais, mais vous disiez, c'est vraiment l'accident de train, quoi. le truc, tu regardes le premier épisode, tu te dis putain, c'était pas terrible quand même, mais bon, il y a l'électeur est parti, on va voir le deuxième quoi. Le deuxième, t'as Curtis, ok, tu dis ah bah finalement c'est le meilleur épisode de Curtis, je me suis un peu fait chier pendant 45 minutes,
mais
bon, dans l'absolu, si je te compare, les deux premières années, les épisodes avec Curtis, je me suis encore fait plus chier que ça, donc peut-être quoi. Et là, le troisième épisode, c'est Neil Gaiman du futur, l'intrigue.
Oui, voilà, oui.
Avec un principe qui marche pas. Et les trois premiers, tu fais encore. Enfin, il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. Mais tu trouves des excuses à chaque fois. Tu dis, c'est peut-être le truc, c'est machin, quoi. Et là, le quatrième, t'as l'épisode sur Hitler. Parce que oui, il y a un épisode où il voyage dans le temps et où il décide d'aller tuer Hitler.
Donc il a regardé Doctor Who,
c'était l'idée originale de la saison. Et là, c'est vraiment juste la purge totale, quoi, l'épisode infâme où juste tout est raté de A à Z. Je pense que.
T'as l'expression jump the shark aux États-Unis, c'est-à-dire le moment, le point d'orgue où la série ne fait que décroître en qualité. Et très franchement, c'est cet épisode-là en fait. À partir de ce moment-là, t'as vraiment l'impression d'être pris pour un con.
Ouais.
Et tu peux plus rien accepter en fait. Et c'est ça le problème, c'est que derrière, tu peux plus rien accepter. Tout ce qui te présente, tu dis ouais, non, c'est cool. Et je suis pas en train de dire qu'il y aurait pas eu cet épisode-là, la saison serait mieux tenue, parce que globalement, elle s'est pas tenue du tout. Parce que les solutions qu'ils trouvent au problème de la saison 2, par exemple, sur le voyage dans le temps est juste ridicule. Enfin, ça n'a aucun sens.
C'est crevé de rire, quoi. Ah, mais... C'est crevé de rire.
C'est Simon au pays de la mûre. C'est horrible. Comment bloquer deux personnages dans une boucle temporelle sans qu'il y ait de justification vraiment accrochant.
Ce qui serait super cool, c'est qu'on meure dans une boucle temporelle pour l'éternité. Mourir, ça m'éclate. Je vais faire ça, c'est une super bonne idée, les quatre autres. Ah ouais, trop cool, c'est beau, je trouve ça romantique.
Okay. Et tout se justifie en vraiment, disons-le clairement aux téléspectateurs pour qu'au final ils soient d'accord avec nous. Donc on vous explique bien, je vais faire ça parce que je ne peux faire rien d'autre.
Amis téléspectateurs, okay. Je voudrais que tu ressentes cette émotion maintenant. Alors on se concentre, tu es ému. Tu es ému, je te dis.
C'est les limites un petit peu du langage méta de World of Vernon. Ils s'en servaient plutôt pas trop mal sur les deux premières saisons. Donc le langage méta, pour ceux qui sont pas initiés, c'est en gros le scénariste qui parle directement aux téléspectateurs par la voix de ces personnages. Alors t'as souvent ça, t'avais ça avec
dans le premier épisode de la saison 2, c'était...
Voilà, disait,
je pense que le ninja, on en a pour 6 semaines, et le ninja, je suis pas sûr qu'on le verra la semaine prochaine.
Voilà.
Donc je vous préviens, la semaine prochaine, c'est un épisode indépendant, genre de trucs.
Voilà, donc c'est plein de langage. Et là, il en abuse, mais complètement. C'est-à-dire qu'il en est au stade où, s'il pouvait, il se mettrait la caméra devant lui et dirait « Bon, écoutez, en fait, moi, là, ce que je veux dire, c'est ça. » Ça serait bien. Non, mais voilà.
Mais il a qu'à carrément faire ça, c'est clair de lune, et voilà. Il fait péter le truc, et c'est bon, et au moins,
ça
ce serait drôle.
Ouais. Exactement.
Ça marche, il y a une bonne intrigue. S'il y a rien, ça devient juste...
Ah non, là, il y a rien.
Si c'est une béquille comme celle-là, pour essayer de justifier l'intrigue la plus pourrie de l'histoire de l'humanité, quoi. Mais vraiment, c'est... Enfin, je vous jure que cette histoire de voyage dans le temps, c'est à crever de rire.
T'as un compte comparé avec Spooks, parce que moi, je suis désolé, la fin de Spooks, c'est franchement chier aussi.
On va y venir à Spooks, mais voilà, le problème, on a une réaction épidermique, encore une fois, parce qu'on aimait le concept de la série, on adorait les personnages, et franchement... Il y avait des trucs vraiment intéressants dans les deux premières séries.
C'est ça, non, et puis non, mais fondamentalement, t'as deux personnages qui pourraient se sauver et qui font le choix de mourir. Oui. Comment tu veux juste. Tu peux pas faire plus débile que ça, quoi. Quand les personnages sont pas suicidaires et qu'ils sont pas dépressifs, tu peux faire ça, tu retournes dans le temps de 10 minutes, tu la sauves et vous vivez heureux pour l'éternité, solution A. Solution B, tu retournes dans le temps de 1 an et vous mourrez tous les deux dans une boucle pour l'éternité. Qu'est-ce que tu préfères
là, ça...
La B?
Bah la B, parce que sinon mon scénariste passe pour un con, donc... C'est
ça,
c'est horrible. Et donc le pire, c'est que ça retire deux personnages, pour Sullivan et moi-même, très jolis à regarder, donc respectivement. Mais, et là, c'est doublement dommage.
Là, si tu veux, c'était vraiment le truc qui pouvait me faire regarder la saison 4, c'est que si jamais je faisais une bande-annonce en disant « Cette année, comment il s'appelle, Bellamy ?» Non, c'est le personnage. Comment il s'appelle le mec? L'acteur, j'ai oublié.
Bref, ce beau gosse-là,
cette année, le personnage de Simon est torse nu, 10 minutes tous les épisodes. Là, éventuellement, peut-être que je regardais la saison.
Je
peux
dire Alisha en sous-vêtements, 10 minutes par épisode, parce que c'était déjà plus ou moins le cas.
Son nouveau super pouvoir, c'est qu'elle a pu porter de vêtements.
Mais je suis preneur.
Une allergie au coton, des trucs comme ça.
J'ai regardé bien pire pour bien moins que ça.
Et là, même pas, donc. Moi, je suis plutôt rassuré. J'ai vraiment plus rien qui me force à regarder la prochaine saison.
Non.
Je la regarderai pas, même pas le premier, parce que j'aurais trop peur de me faire avoir et de regarder toute la saison, mais c'est pas possible. Je vais faire une fois, pas deux. Et donc, j'avoue que pour moi, c'est vraiment terminé Misfits.
Ouais,
et je suis vraiment déçu de pas avoir terminé avec la saison 2, quoi. Parce qu'au moins, je serais parti avec une bonne impression.
Il y a des séries comme ça, ça me fait même penser à une série comme Nip Tuck, où pareil, à la fin de la saison 2, j'aurais bien aimé arrêter, tu vois, 5 minutes avant la fin et série sublime, j'arrête là. Ouais. Là, c'est pareil.
Bah, c'est le même genre de carnage. Hein.
Exactement.
Le problème, c'est que ça arrive à plein de monde, ce problème avec Nip Tuck.
Ah oui, oui. Clairement. Et puis, il y a quelques cas qu'on connaît où Misfits saison 3 a pas vraiment gêné, mais globalement, moi, j'ai du mal à saisir, quoi.
Bon, je pense qu'on a réglé son conseil à Misfits, là.
Alors, après la fête de Misfits, la fête des Spooks.
C'est ça, nos fameux espions de l'agence MI5.
Alors, Spooks vient de finir son run de 10 saisons. Ça fait combien? Ça fait à peu près 80 épisodes, peut-être 100, à peu près.
Oui, ça varie entre 6 et 8 épisodes, 10 épisodes, ouais, max, donc ça doit être ça.
Une série qu'on adorait, c'est un.
Les premières saisons sont même vénérées, je pense. À mon niveau, c'est vénéré. Hein. Sur certains épisodes, le Hellspy Apocalypse, je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai vu.
Tom Quinn.
Ah, Matthew.
Oh, les yeux de Matthew.
C'est bien, Matthew. Avec l'enchaînement de ce qu'on vient de faire tout à l'heure, ça donne l'impression qu'on regarde les séries juste s'il y a des beaux gosses ou des belles nanas.
Eh ben, c'est ça. En fait, le secret du village est dévoilé.
C'est pas un secret. Nous sommes humains. Et oui, messieurs, dames, nous sommes humains. Et nous aussi, nous craquons sur quelques acteurs.
Et donc, trois saisons fantastiques, deux moyennes. Mais bon, toujours avec un certain niveau de qualité quand même.
Bah, disons que c'était plus le même style, mais qu'on y trouvait quelques.
C'était plus action.
Voilà,
plus,
mais dans leur style, en tout cas, elles s'en sortaient à peu près.
Le truc, c'est qu'au départ, Spooks, c'était un petit peu une réponse britannique à 24. C'est faites-nous une série sur des espions avec des écrans en simultané. Ils ont pris cette forme-là, ils l'ont adaptée à leur sauce, avec un côté un petit peu plus.
Cérébral,
j'allais dire austère, mais par rapport à 24, austère, c'est normal, quoi. pas hystérique, quoi, plus posé, et puis bon, avec peu de moyens, en fait, sur les premières saisons, surtout la première.
C'est-à-dire que les espions faisaient plus systématiquement exploser la moitié du pays à chaque épisode.
Exactement.
Contrairement à 24. Ou ne tuez pas 25 000 personnes, ou...
Là, il y a très peu de morts hein, dans les premières saisons de Spooks.
Il y en a quelques-uns mémorables, quand même.
Il y en a quelques-uns mémorables, mais...
En plus, à la fin des saisons, on ne découvrait pas que c'était la reine Elisabeth qui était la complotrice en chef.
Non, on n'avait pas ça, non. Non, mais bon, t'avais plusieurs morts, mais c'était des morts justement frappantes, parce que c'était pas juste agent qui tue un méchant numéro 45.
C'était beaucoup de la friteuse et hyper traumatisant, mais voilà.
Moi, j'ai souvenir de les avoir vus rarement avec des flingues dans les premières saisons, par exemple. Ce qui n'est plus le cas du tout les saisons suivantes. Hein.
Bah, dès qu'il y a eu Adam Carter, de toute façon, Adam Carter, l'idée était de le faire courir avec un...
C'était Badger Bauer qui s'appelait, non? Il s'appelait Adam Carter, t'es sûr?
Adam Bauer. Il y avait le nom composé. Non, mais c'était l'idée de... C'était le Adam Show chaque semaine pendant un temps. Donc, bon,
mais ça restait par moments assez plaisant à regarder. On trouvait quand même des éléments qui faisaient le charme de
des premières saisons. Il y avait des trucs farfelus, mais il y avait quand même un fond d'intrigue.
Voilà, et puis... la série avait vraiment repris du poil de la bête en saison 7 et 8
avec le personnage. Lucas Norse.
Ouais, écoutez pas Emily parce que...
Il était vachement bien ce personnage.
Non, le personnage était très bien.
Il est parti en vrille.
Justement,
on va la saison 9 et 10 dans quelques secondes. Mais oui. C'est vrai que Rosemeyer et Lucas Norse avaient redonné un peu poil de la bête et un peu de.
Un peu d'intérêt à la série, ouais, quelque chose de plus profond, de dureté, d'âpreté. Moi, j'avais le souvenir de Spooks, les personnages de Spooks, c'est pas à proprement parler des personnages sympathiques, quoi. Et on avait perdu ça avec Adam Carter, qui était une sorte de type parfait, quoi, sans aspérité. Et là, on retrouvait ça avec le personnage de Lucas North, donc qui arrive,
Adam
qui
Carter
sort de prison.
Tout le monde, Adam Carter pardonnait tout le monde. Adam Carter était Dieu.
C'était quoi son nom de famille, Ross, dans Urgence?
Dougross. Hein.
Dougross, voilà, c'était l'inverse. C'est Dougross dans Urgence, quoi. C'est vraiment un type qui est pas crédible. Tu crois pas une seconde que ce personnage peut exister dans la même vie, même s'il est bien interprété et plutôt bien écrit. Tu peux pas te dire non, ça existe. Adam Carter, c'était pareil. Tu peux pas te dire non, il existe ce type-là. C'est non. Et puis il avait tendance aussi, le problème c'est quand tu faisais partie du casting de Spooks saison 4, 5, juste existe pas.
Tu faisais de la figuration apparemment.
Avec ce magnifique épisode où donc...
Ouais, il se fait passer pour
il
le...
Se fait... il, se...
il se fait passer, il doit infiltrer un truc du Moyen-Orient.
Ouais, voilà.
Et il se fait passer pour un arabe, alors que dans l'eau, il y a un rebeu dans la boîte.
Et lui, il est blond, aux yeux bleus, et voilà. Non, non, mais c'est normal, il y en a qui ont vraiment le teint caucasien. Dans
l'autre, il s'appelle Zafar Younis, il est là. Moi, je pourrais. Non, non, mais on va mettre lui qui ressemble absolument pas à un arabe.
Voilà, celui qui fait très problème. Anglais, tout ce que tu veux, tu peux le faire. Chez les Vikings, tu arriveras à le faire passer, mais alors là, vraiment, tu te demandes comment ça passe. Et il se fait pas pister pour un bon
c'est vraiment
temps,
la honte quand même.
Ah non, c'est la honte, là, j'imagine le comédien. Non, mais vous êtes sûr, vous voulez pas me donner une histoire ce coup-ci? Non, non, on va la donner à lui, il y a pas de problème.
Non, 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 c'est pas grave, on va te faire faire des huiles. Et puis voilà, bah, c'est
non,
juste
mais j'imagine nos trucs, ça aurait été Big Mama à un moment. Non, on a besoin d'une femme, ouais, pas de problème, regardez, perruque. Heureusement, il est pas resté en saison 7, sinon on y avait droit.
Ouais,
quoi.
Ouais. Non, non, mais du coup, bon, il y avait cette période-là, mais c'était revenu. Correct, on va dire. Voilà, sur la saison 7-8, on s'était quand même bien régalé. Enfin,
oui,
moi, je m'étais bien régalé. Il y a quelques très très bons épisodes également. Et puis, il y a eu la saison 9. Alors, vous en avez peu entendu parler, on va dire, contrairement aux autres où Dominique avait été assez prolifique, il avait écrit pas mal d'articles. Là, en gros.
Vous fouillez dans les 15 eaux.
Voilà, fouillez dans les 15 eaux, vous allez avoir une réaction, ma réaction au début de saison, la réaction d'Dom au début de saison et ma réaction fin de saison qui fait que Dom n'a regardé la fin de saison que cette année pour regarder la saison 10. Et encore.
Oui, non, ça a été une torture de tous les instants. La saison 9 de Spooks, je l'ai expédiée comme n'importe quelle justement série Guilty Pleasure, c'est-à-dire dans le métro, dans le bus, pendant les périodes d'attente, parce que j'y ai trouvé strictement aucun intérêt.
C'est pire que ça.
De sens. Et en plus, chose que je ne supporte pas et que je ne pardonne pas, c'est la trahison complète d'un personnage.
S'il n'y en avait qu'un, enfin,
si
moi j'ai l'impression qu'il y a...
Oui,
non mais globalement il y a, comme tu disais, il y a le personnage du ministre.
Oui,
c'est
voilà.
C'est à celui-là que tu pensais.
Non, mais pas que lui. Enfin, ça, c'était
c'est
le premier.
Ça, qu'il y en a
mais non, mais c'est ça le problème.
T'as lui, t'as Lucas qui.
On se souvenait même plus, je veux dire, je l'ai effacé de ma mémoire. Ouais, on a un ministre pendant 8 ans, c'est un type intègre.
C'est le meilleur allié, c'est celui.
C'est le drapeau que tu regardes voilà. Fièrement étendu. Et au début de la saison 9, ah non, c'est une ordure. Et hop.
Voilà.
Juste pour
et
le
tu
bien.
L'expédies en plus en 10 minutes.
Mais voilà, oui.
C'est une ordure, on le bute, et voilà.
Et alors, pour poser les bases. Entre la saison 8, bon, il y a eu beaucoup de changements de scénaristes dans Spooks, hein. Ça a quand même
été un
roulement assez régulier. Hein. C'était plus une usine à audience pour la BBC que vraiment une œuvre d'auteur.
C'était pas une série d'auteur
du tout.
C'était
voilà. Pas une série d'auteur, c'était
un peu une série de producteurs.
Malgré tout, ça tenait encore debout jusque-là.
Le soi-disant créateur, David Wollstonecraft, il a écrit le premier épisode, c'était un romancier d'espionnage, il a laissé les rênes et les autres se sont plutôt bien amusés avec le jouet. Hein, après. Mais après, c'est pas choquant, une commande de producteur, ça peut aussi donner quelque chose de très très bon, et la preuve, pendant 8 ans, les 3 premières saisons étaient vraiment très bons, et puis sur les 8, dans la globalité, t'as pas grand-chose à redire. Bon, à part voilà, ce qu'on a déjà dit. Mais la saison 9, changement complet d'équipe.
Mais
et là,
il n'y a plus aucune cohérence, tu disais, par rapport au personnage. Mais même, enfin, ça devient ridicule parce que le personnage de Lucas qui se fait. On nous a expliqué pendant 2 ans que Lucas, c'était en gros le mentor de Tom Quinn, qu'il avait été en prison pendant 8 ans en Russie. Mais donc, voilà, c'est un personnage écorché qui a un gros passif et tout. Et là, on se retrouve. En fait, Lucas n'est pas Lucas. Lucas a un autre nom tout pourri. Et Lucas est intégré le MI5.
Ça, c'est gratuit.
Non, mais c'est vrai.
Il s'appelle quoi Sébastien Michaud
Oui, voilà, c'est un peu ça. Ça me fait trop penser à. C'est exactement le coup d'alias, quoi. Mais en gros, on lui trouve une histoire. André Michaud.
Ouais, tant qu'à prendre un prénom de français, autant prendre André, quoi.
La prochaine fois, ce sera Bernard.
Ou
et puis, non, mais c'est juste, on le retourne complètement dans un truc qui fait penser que, un, les mecs n'ont pas tenu la chronologie parce que si tu fais le décompte des années, juste, c'est pas possible. Et deux, que les OMI 5, tu recrutes
n'importe qui.
Tu recrutes. Voilà, j'arrive avec une carte d'identité sur un bout de carton marqué que je suis britannique, que je m'appelle Sandra. Je m'appelle Sandra Bullock, tiens, allez hop, je suis britannique, je m'appelle Sandra Bullock.
Et voilà. Célébrité, ça passera
non,
bien.
Non, mais avec Sandra, c'est le premier nom.
J'ai fait option informatique en seconde, je pense que je peux faire analyse.
Voilà.
Ok, on t'empoche.
C'est bien, allez, viens.
Mais c'est complètement ridicule. Et et donc ça c'était la saison 9 qui partait en bien en vrille, mais la 10 c'est
non,
au
mais
moins
attends,
la 10
mais ça part encore plus en vrille la saison 9, oui, il retrouve bon. une ex, alors la nana elle est à Londres depuis qu'il est revenu de prison en Russie, ça lui est jamais venu à l'esprit d'aller retrouver la nana, non, bah non, pourquoi pas, allez, donc il a une identité secrète, et ce qui est horrible à la fin de la saison 9 c'est que tu voyais Lucas North donc évoluer, faire des saloperies pour s'en sortir, pour camoufler des choses. Tu te dis bon souhait, à la fin c'est un méchant de cartoon.
Mais à la fin c'est même pire que ça, c'est qu'ils arrivent à mettre. Enfin moi je me rappelle vaguement, parce que bon j'avoue je les ai pas regardés 50 fois, hein, pour être très clair. Je me rappelle vaguement des images de Lucas qui limite devient fou, tu sais, il débat comme ça, où tu vois sa tête qui secoue avec des flashbacks, des images. Tu fais oui, enfin bon, il est pas sous exta non plus, je veux bien que ça le perturbe un peu, mais.
C'est Nicholson dans Les Sorcières d'Eastwick.
Si tu veux, il a été torturé pendant 8 ans par les Russes, il était pas dans cet état-là depuis 2 ans, pourquoi d'un coup est-ce que voilà, ça lui reviendrait comme un cheveu sur la soupe, quoi, c'est un peu ridicule.
Non.
Non, vas-y.
Non, bah après, oui, c'est. En fait, avec la saison 9 de Spooks, tu constates le saccage complet d'un personnage sans qu'il y ait vraiment de raison apparente, si ce n'est que à la fin de la saison, Richard Armitage devait quitter la série. Mais
ouais, voilà,
il y avait des moyens peut-être un petit peu plus fins de faire passer ça plutôt que d'essayer de faire une sorte de grosse conspiration. Même si je comprends ce qu'ils ont essayé de faire, moi, le seul concept qui m'intéresse là-dedans, c'est de se dire que le personnage donc, de Lucas North. C'est menti pendant des années à tel point que il a cru ses mensonges.
Mais
il y avait des moyens peut-être un petit peu plus fins de l'amener, quoi. Là, bah, c'est tellement énorme en plus ce qu'il a fait, quoi. C'est même plus j'ai usurpé une identité.
C'est gros bourrin dès le début, oui. Surtout, enfin, dès le début. Vu qu'il le révèle au fur et à mesure, c'est mais liste, enfin. La source de cette histoire est vraiment bourrin et n'a pas de sens, et en plus. Ils le mettent en place sur toute la saison, mais la conclusion de ça, c'est on a vraiment l'impression de allez, on balance tout, hop, hop, c'est plié, et puis voilà.
Mais c'est horrible, la conclusion.
Et la dernière scène est vraiment.
C'est ridicule,
parce qu'en
fait, en gros, à la fin, en fait, il est à dos de tuer tout le monde pour obtenir une pièce de technologie qui est en gros une bombe qui tue par race et par signe distinctif, en fait. Soit.
C'est très visuel là, Sullivan vient de faire un mouvement de sourcil.
Déjà, c'est pas Spooks comme il est.
C'est SF.
Pour le coup, on est dans 24 ou dans James Bond, on sait pas bien, mais.
De toute façon, t'es plus dans Spooks dans cette saison là.
Une fois qu'il y a tout ça qui s'est passé, t'as donc Harry qui lui donne. Parce que ça lui permet de sauver Ruth. Il se barre, et à la fin, il se fait taper sur les doigts et Harry dit de toute façon, ça marche pas. Tout le monde était à deux doigts de se faire tuer. Il y a eu tout ça pour t'entendre dire « Ouais, non, on lui a filé finalement, parce que ça marche pas de toute façon. »
Et c'est complète... Enfin...
Et là, t'entends le « That's all folks ».
Et même cette... Enfin... Ce personnage, cette dernière confrontation sur le toit.
Ah oui,
avec Harry. Tu te dis... Déjà, bon, ça ne rend pas justice au personnage du tout, mais de toute façon, ça fait une saison que tu fous en l'air. Mais le pire, c'est que ça pourrit le personnage d'Harry aussi. C'est-à-dire que les deux sont complètement ridicules. Les deux n'ont ni queue ni tête. Et alors à la fin, voilà, et puis cette façon de le filmer, et puis hop, il se retourne. Ah bah il est plus là. Ah bah j'étais sur un toit d'immeuble. Ah bah on suppose qu'il a sauté. Bon, c'est limite, il nous montre pas qu'en bas il y a une grosse crêpe, quoi, mais c'est ridicule.
Non, tu vois Peter Jackson à côté. Non,
il faut qu'il vienne faire le Hobbit.
Comment c'est déjà lui mettre la barbe, tu sais, pour aller faire le nain.
C'est peut-être ça le saut, c'est pour le réduire en taille.
Oui, parce que je me suis toujours demandé comment un mec, un gros gaillard musclé d'1m90 allait jouer
en
le chef
du 80e, c'est bon, tu peux perdre facile 40 cm.
Quand t'as vu John Rhys Davies.
Oui, c'est vrai. Oui. Et là, il y avait une proportion que tu pouvais le réduire, ça faisait rien que là.
Enfin,
et donc
voilà.
Ce n'est rien comparé à la saison 10. Qui ne compte pourtant que 6 épisodes.
On sent quand même le côté. Bon, alors il n'y a que 6 épisodes, ils l'ont annoncé, ça a été communiqué au niveau de Culos, etc., de la BBC, comme quoi c'était la dernière saison, parce qu'il ne fallait pas épuiser non plus. Donc, créativement, ils étaient arrivés au bout et qu'il fallait que ça se termine. Voilà, qu'on le pousse pas
non,
plus loin.
C'est bien, on s'en rend compte à un moment.
Mais
ça raconte une histoire, aussi limite.
Non, ça
ça raconte une histoire. Oula.
Ça raconte. Il y a un fil rouge qui est bien tendu, hein. qui est toujours aussi fin. Et alors quelques l'honneur dont certains sont pas si mal que ça au final.
Ouais, mais enfin bon, quand tu... Enfin, moi, si tu veux, après la saison 9 qu'on avait eue...
Oui, rien ne pouvait être...
Déjà, tu te demandes comment ils vont rattraper le coup avec la saison 10. Donc, le premier de la saison 10, tu te dis, allez, ils vont rajouter. Parce que forcément, ils ont quand même tué pas mal de persos dans la bataille.
Dans l'eau, il y en a une qui s'est barrée, hein, Sophia Miles, voilà. Qui a été touchée par la grâce. Qui s'est dit, je me barre de ce machin-là.
On n'a pas parlé d'elle. Cette belle blonde qui débarque dans la saison déjà juste avant.
C'est Girl in the Fireplace.
Qui déjà n'a pas forcément non plus un... Enfin, son rôle est déjà un peu bancal parce que tu te demandes pourquoi
bancale,
elle arrive là-dedans alors qu'elle est, en gros, c'est plus ou moins une mercenaire. Quoi.
C'est une mercenaire complètement. Enfin, je veux dire, elle a deux doigts d'être en taule à la fin du premier et puis finalement, Harry lui dit on t'embauche.
Voilà, et elle est là. Elle est là, et en gros, la pirouette...
Politique de recrutement du MI5,
personne ne sait. C'est une catastrophe.
C'est ce que je disais à l'époque, dans le 15 au limite, Ben Laden, il se présentait, tu te rases, mais c'est bon, tu viens, quoi.
Et du coup, alors, en fait, t'as l'impression d'une prise de conscience. C'est plus saison 10, le premier épisode, pour expliquer qu'elle s'est barrée, tu dis, oh ben en fait, on a trouvé que son casier était un peu trop chargé, on l'a dégagé. Ah bah c'est bien les mecs, vous avez bien en réalisé. Donc déjà tu rigoles un peu. Mais alors moi la réplique d'Harry avec, dès qu'on apprend que voilà, je suis son père, là j'ai fait non mais c'est pas possible quoi, c'est non mais voilà c'est Dallas.
Mais ça pourrait être intéressant. Oui, t'as des éléments de soap à partir de la saison 9 qui sont incroyables. Hein. Mais
t'as des éléments de soap et en plus c'est écrit façon soap.
Oui, c'est écrit façon soap. Et tu t'attends pas à voir ça dans Spooks quoi.
Harry,
c'est choquant.
Pas un gros sensible de base, enfin qui est plutôt un personnage hyper complexe, là tu te prends encore une baffe en disant c'est pas possible quoi.
Ça serait dans Law and Order, l'avocate qui déclare sa flamme au procureur en fin d'épisode, juste après la leçon de morale que t'as à la fin. Ah. Bah, c'est pareil, c'est hein.
Donc, quoi, là, donc au final, tu vois le premier déjà, tu te dis bon, on est mal barré pour la suite. Et ça fait qu'empirer, parce que le peu de personnages qui restaient à peu près cohérents des saisons précédentes, c'était quand même le duo Harry et Root. Donc tu te dis, voilà, il faut que ça se conclue là-dessus, il faut que ça soit eux qui
travaillent. Je vais être honnête. Hein. Donc là, attention, gros spoiler sur le dernier épisode de la saison 10 et donc de la série. Et globalement, c'est pas rendre déshonneur à la série que de dire comment ça se termine.
Non, mais j'en étais même pas là, c'est même tout le long.
Ah mais
leur
oui,
relation déjà
oui.
Tout le long de la saison elle est pourrie, enfin tu vois ce oui moi non plus pendant 9 ans, tu vois où ils en sont à la saison 8, tu vois comment ça commence sur la saison 10, puis cette russe
oui.
Et puis là juste
attention russe hein, pas russe
ouais, voilà, cette femme russe qui débarque, etc. Et cette... Alors, non seulement...
Alors, la femme russe en question, en fait, c'est une ex-amante d'Harry qui servait, en fait, d'agent double.
À l'époque de l'Union soviétique...
Même à résumer, c'est pénible.
Et en gros, on part du début de saison, le fameux « c'est mon fils », etc. En gros, Harry... Donc elle arrive en Angleterre, etc. Et elle a un fils, et Harry annonce que c'est son fils, en fait. Et que c'est pour ça qu'il ne peut pas intervenir par rapport à ce mec-là, en fait. Qu'il ose
pas. Parce qu'il y a un... Voilà, il y a un... En gros, la femme en question est donc une agent double, et dernièrement, en fait...
Elle a été réactivée.
Elle a réactivé par Harry. Enfin, elle croit que c'est par Harry. En fait, c'est par une tierce personne.
Voilà.
Et donc avec cette femme, il a eu un...
Et ça va durer toute la saison.
Voilà.
Sauf que ça a un dénouement de merde.
Moi, honnêtement, je me suis endormi une grande partie de l'épisode 10. Et le problème, généralement, quand on s'endort devant un épisode de série, on revient en arrière, je me suis dit, je vais pas m'infliger ça. J'ai laissé finir l'épisode qui finit dans une sorte de grand guignol, mais ridicule.
Ah, mais c'est pire que ça.
C'est...
Les 20 dernières minutes, limite, les regardez pas, ça sert à rien. C'est pire que tout. C'est la pire conclusion d'un épisode et d'une série, je pense qu'on pouvait faire.
C'est la fin d'un mauvais épisode de la quatrième dimension. En fait, tu t'aperçois qu'Harry ne pourra jamais être heureux, qu'il est coincé à vie au MI5. Et que...
Ça, c'est le côté déprimant, mais limite, ils auraient pu le faire propre, si tu veux. Tandis que là, faire que le fils qui s'excite, qui est parce que sa mère vient de mourir assassinée par son père, parce que son père n'est pas Harry, finalement, c'est Dallas. Son père n'est pas Harry. Donc ce faux fils, qui du coup, énervé d'avoir vu sa mère être morte, avoir été tuée, et qui rend Harry responsable de ça, prend un bout de verre. Sort, parce que Harry est sorti du bunker en question avec Root, et il y va pour tuer Harry, sauf que bien sûr Root s'interpose, Et bien sûr, elle se prend avec ce petit bout de verre un coup mortel et elle clame sur 5 minutes. Parce que bien sûr, les secours, les Anglais ne sont pas efficaces et mettent 45 minutes pour venir
je
la sauver.
Personne essaie de comprimer la plaie.
Ah non, non, Ruth est la terre. Harry dit appeler les secours. Il y a Lara Pulver, là, le personnage, un des nouveaux personnages qui prend son téléphone et qui. Et qui appelle et qui fait. Il y en a pour une demi-heure en gros, et où ils font signe comme quoi elle va pas survivre. Et Ruth meurt.
Vous voulez une pizza avec ?
Voilà, c'est complètement débile. Un qui essaie de tuer quelqu'un à la fin, qui tue Ruth, qu'elle meurt.
C'est pas de chance, hein, quand même.
Et alors, le plus crétin, c'est quand même si je l'adore, je le vénère, c'est le caméo de Matthew McFadden, qui est juste complètement sorti de nulle part, ridicule.
Je t'ai dû passer dire bonjour.
Voilà, je viens faire coucou, bonjour. Limite, si c'est venu faire coucou réellement, genre, il aurait pointé aux funérailles de Ruth, ça aurait été plus cohérent, quoi.
Mais oui, là, c'est ridicule.
Parce que là, le mec se barre du MI5 pour une crise de conscience, parce qu'il ne comprend plus, enfin, il ne trouve plus de sens à ses missions et à ce qu'on lui demande de faire. Il se barre, et là, ils expliquent gentiment que, pour venger, en gros, ce qui s'est passé, ils envoient quelqu'un s'occuper d'un russe qui est à la tête de tout ce complot. Ce quelqu'un, c'est d'une agence extérieure.
Des complots les moins bien expliqués de l'histoire.
Voilà, on n'a toujours pas compris exactement ce Gus-là.
Mais il avait l'air méchant.
Il était vieux.
Ça va.
Il était vieux et il avait l'air vachement fort. Et voilà, et en fait, d'un coup, on voit Tom Quinn,
hein,
voilà, il est russe, mais alors, on ne sait pas où il est vraiment, hein, parce que malgré tout, son bout de grillage avec sa maison dans la forêt, voilà.
Bah, à côté de chez Tom Quinn, hein,
voilà, c'est un peu ça, en fait, Tom Quinn, donc, débarque à cet endroit-là, et dit qu'il vient voir le gars, et qu'il a rendez-vous avec lui. Et donc
ça
là,
s'arrête là.
Là, c'est la grande question de Dominique, que vient-il faire? Alors, Dominique, quelques suggestions?
Prendre le thé.
Voilà, ou alors le tuer, on n'en sait rien, et c'est ça qui est génial. Et donc, on ne sait pas non plus ce qu'il vient foutre là, Tom Quinn. C'est juste fantastique. Et ça se termine là-dessus.
C'est Matthew McFadden qui avait 5 minutes dans son emploi du temps. Voulait shooter un truc, ok.
Non, mais ouais, voilà quoi.
D'accord, mais bon, vite, et dans mon jardin, s'il vous plaît.
Franchement, ça limite à se demander
si. Derrière les scénaristes et les gars, faut qu'on écrive un truc pour être raccord avec la scène du jardin, parce que sinon, on n'a pas McFadden.
Donc voilà, c'est juste une énorme aberration ce final. C'est-à-dire que, mais y a, et je suis rassurée, c'est qu'il n'y a pas que nous. Je connais d'autres fans de Spooks qui sont tombés des nues en fait.
Non, mais c'est un saccage, c'est un saccage complet, un manque de respect pour les personnages, un manque de respect pour les intrigues. Et ce qui faisait l'intérêt de Spooks, on a vraiment l'impression qu'à vouloir marquer leur empreinte, les nouveaux scénaristes se sont juste dit allez les gars, maintenant on va faire un truc vachement cool. Quoi.
Ça, c'est la grosse erreur type du nouveau lead writer qui arrive et qui dit je veux mettre mon empreinte à moi.
Ils ont voulu créer des persos nouveaux. Forcément, tu vas me dire, il y a quand même plus grand monde dans l'équipe. Donc ils ramènent deux persos. Qui est le perso donc de Lara Pulver. Vas-y, fais le petit rire. Qui prend la tête, qui remplace Luca Norse. Donc, où ils essayent de lui donner une dimension, elle est mère de famille. Donc, il y a des choses pas mal réussies d'ailleurs sur son perso.
Mais
les deux
nouveaux personnages sont pas inintéressants. En fait, parce
l'autre,
que même l'autre
on l'exploite pas.
On l'exploite pas, mais il est un peu intéressant dans le sens où c'est le seul personnage de Spooks qui a un peu d'humour. En fait.
Oui, il y a peu.
Et du coup, il y avait une sorte de nouveauté là-dedans. Mais ils sont pas du tout développés. Et puis, ils sont bazardés là. Et
il y a 6 épisodes.
Il y a 6 épisodes, dont 4 qui vont être un petit peu sur eux. Donc,
ils arrivent. Le premier, déjà, tu les vois. Il faut déjà dénouer le sac de nœuds de la saison d'avant, qui forcément est pas évident. Et le dernier, il faut dénouer le sac de nœuds qu'ils ont mis cette année, qui est un gros bordel et qu'on peut n'importe comment.
Le personnage de Pulver, quelque part, t'avais déjà balisé le terrain avec Adam Carter. Hein. C'est une redite d'Adam Carter sur l'aspect famille. Hein,
C'est une redite sur Adam Carter, sauf que je trouve que sur Adam Carter, c'était très très mal géré en fait, ce côté-là.
Oui,
parce
qu'il
n'y avait pas justement le côté humain limite. Enfin, son fils, il y a eu une père, si après la mort de sa mère, où là on l'avait plus exploité, et encore on s'en est vite débarrassé. Voilà, on s'en est vite débarrassé chez les grands-parents quand même du gamin, donc bon. C'est...
Bon, on va pouvoir considérer qu'on a bien donné envie à tout le monde de regarder
donc,
la saison 10 de
Spix
après la saison 3 de Misfits.
Saison 8 terminée, vous arrêtez. C'est déjà plus que Misfits hein, quand même, ils ont tenu le choc.
Ouais. Mais c'est ça que, après pour Spook, ce qui est la différence, c'est quand même, c'est vrai que là du coup il y a 10 saisons, on tape le 100 épisodes.
C'est toujours triste de finir.
Ça doit être les 4e, les directeurs.
Il y en a, oui. Voilà, et puis même au niveau des personnages principaux, ils ont eu des changements de casting qui sont quand même costauds.
la série, on arrive à la quatrième génération de voilà, donc il y a plus.
La série aurait peut-être dû s'arrêter un peu avant, mais bon.
Du coup, dans l'idéal, tu dis que voilà, créativement,
on peut pas vraiment vouloir à Kudos. Hein, à l'époque, la série est renouvelée, ils donnent leur chance à un groupe de scénaristes.
C'est ça. Mais même là, bon, là c'est quand même fini plus anonymement parce qu'au niveau des audiences, c'était quand même.
Ah, de notre côté, la BBC les envoyait au casse-pipe contre.
Oui, Downton Abbey en face, donc voilà, c'était un peu clair, mais on sentait qu'en gros, ça s'était négocié avec, entre Kudos et la BBC à la fin de la saison 9, qui était déjà bien en baisse, comme quoi, bon, faut pas finir comme ça. Si vous l'annulez comme ça, ça casse toute l'image de marque de votre série. On fait la 10, mais on annonce dès la 10 que c'est fini, quoi.
Ouais. Et puis ça n'a pas du tout cassé l'image de marque de la série.
Non, mais de toute façon, ils n'étaient plus à ça près, là, avec la 9 déjà, mais bon, c'est vrai que là, ils ont bien enterré.
Bon, en France aussi, on a nos séries qui peuvent partir en sucette, mais là on a un exemple super intéressant de série qui part en sucette et puis qui s'en remet, ce qui est assez incroyable, qui est Fais pas ci, fais pas ça. Tu l'avais vu à l'époque, Nicolas,
oui,
la saison 2 de
Fais pas ci. J'avais vu la 2, et c'est vrai que on connaissait en France les séries qui commençaient mal, qui au milieu n'étaient pas terribles et qui terminaient de manière tragique.
Beaucoup de séries françaises sont comme ça.
Ouais, au moins, il y a une espèce de. Comment dire ?
De constance.
De constance dans la descente.
Il y a une vraie cohérence, voilà. Dans
c'est des séries de skieurs, en fait. T'es tout en haut et puis tu peux arriver qu'en bas, de toute façon. Sauf que.
Bon, la théorie du oulala. Oulala, oulala,
sauf
oulala.
En France, c'est plutôt du ski de fond, t'es déjà en bas au départ, puis tu continues. Et t'es toujours en bas à la fin.
C'est ce qu'on appelle les congères. C'est-à-dire que tu t'enfonces et là, il n'y a plus rien à faire. Mais bon, c'est vrai que. On avait eu une première saison, quand même, de Fais pas ci, fais pas ça, qui était quand même plutôt bien. Diffusée à un horaire complètement aberrant. Mais
je suis d'accord avec ça, mais
19h, entre 19h et 20h un samedi,
c'est l'horreur de Doctor Who en Angleterre, ça leur réussit pas si mal.
Ouais, mais,
mais en France on n'est pas habitué à ce créneau là.
Combien d'autres fictions sont proposées à cette horaire là
Non, mais je suis vraiment d'accord avec ça, mais sauf que des nouvelles cases de fiction, on va absolument avoir besoin d'en créer en France. Pour l'instant, il y a de la fiction qui est à 20h35, c'est pas possible, quoi. Il va falloir qu'on crée d'autres cases, et les nouvelles cases de fiction, elles vont pas apparaître du jour au lendemain. Plus belle la vie, ils ont mis 8 mois à se faire leur trou. Et le samedi à 19h, il y a Sous le soleil qui a cartonné pendant 10 ans sur TF1. Donc il y a moyen de.
Alors, c'est vrai, mais c'est difficile d'être cohérent avec.
C'est juste qu'en 12 épisodes, et puis ça marche pas, on arrête. C'est pas possible. Il fallait se fixer un an et communiquer Marx Costaud, quoi. Parce que...
Mais la démarche. C'est le problème de la communication avec France Télé.
La démarche de France Télé est très claire de ce point de vue-là. Parce qu'en contemporaine, tu as aussi Clara Scheller qui est diffusée à 20h45 à cette époque-là. Pourquoi est-ce qu'on met Clara Scheller en prime time?
Clara
Scheller. C'est à peu près à la même époque. Hein. Je crois que
c'est pas les mêmes équipes qui ont lancé les deux séries, mais
c'est la génération d'avant. Quoi.
Clara est passée en 2005 et fait passer en 2007, il y a deux ans qui passent. Clara, ils ont ça,
c'était la nouvelle politique fiction à l'époque.
C'est de l'époque Bachman en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à la prog, Clara, ça a été limite qu'il la passe à 20h40 à l'époque. Ça a presque été un peu développé comme une série de 21h30 comme avocat. Et finalement, ils l'ont mis à 20h35, mais enfin, ou 40 à l'époque, mais ça a été un peu, limite. Quoi. Mais bon, bref.
Donc, oui, une première saison diffusée le samedi à 19h, avec des résultats d'audience assez médiocres. Et qu'est-ce qui se passe quand une série est médiocre à 19h sur France Télé? Et bien, l'année d'après, on la propose à 20h45.
Le truc, c'est
quand même assez énorme.
Mais ils essayaient de créer leur case.
Il y a eu quand même un super bon retour critique sur Fais pas ci, la première saison.
Ils ont salué leur démarche là-dessus.
Mais hein. Du coup, là, on est en pleine époque Carolis Duhamel. Et si tu veux, pendant 5 ans, ils nous ont fait Nicolas Le Floch, que j'aime beaucoup, sur la question, Maupassant, tout ça. Donc, on était que dans le truc à la naphtaline, machin. Quoi, et leur seul truc de fiction contemporaine qu'ils ont. Et en plus, la critique dit que c'est vachement bien. Je suis pas sûr qu'ils aient jamais regardé eux, mais ils disent bon, ce truc là il faut qu'on arrive à le sauver avec les dents, quoi. Et du coup, ils le sauvent avec les dents. Et là, avec ce truc
qui manque dans le script,
avec ce truc con qui dit que la chaîne, on va passer ça à 20h35, donc il va falloir muscler ça, les gars.
Oui, sauf qu'à ce moment là, toutes les caractéristiques de cette fiction là sont complètement sabordées pour dire on va mettre de la guest star complètement aberrante, Bruno Solo.
On va la transformer en façon TF1, en fait, c'est tout. C'est de mettre une intrigue un peu artificielle et pas du tout réaliste avec du guest en effet.
Pas du tout en cohérence avec les personnages que t'as créés.
Non, mais vraiment façon TF1.
C'est ce truc que dans le catalogue de règles de la fiction française qui fait à peu près 3724 pages écrites en corps 8, il y a ce truc en 20h35 qu'il ne faut pas faire de chronique, quoi. ce qu'on appelle de la chronique, c'est du petit soap quotidien, quoi. Il paraît que ça marche pas. Les nouvelles saisons de Fais pas si ont prouvé que ça pouvait très bien marcher. Mais à l'époque, il y a cette croyance, ça marche pas la chronique à 20h35, on peut pas en faire. Et donc, du coup, il faut une intrigue, un fil rouge et un truc parapolicier, quoi. Parce que les mecs, s'il n'y a pas une intrigue parapolicière, ils savent pas quoi faire de la vie. Donc voilà. Et donc, tu te retrouves
avec quelque chose qui n'a ni queue ni tête, parce que finalement, la force de cette fiction-là, c'est quand même d'opposer deux mondes complètement différents. Un classique, mon la vie est un long fleuve tranquille, finalement, mais adapté de manière intelligente et au format.
Et pour le coup, comme tu disais, le problème, c'est qu'on se dit, on va foutre de l'intrigue policière, parce que finalement, on fout du policier n'importe où, n'importe comment. Du coup, on fait du mauvais policier et on fait de la mauvaise fiction. Et alors là, c'est une catastrophe. Parce que finalement, plus personne ne reconnaît la série vers laquelle se tournaient les téléspectateurs. En plus, il y a le choix de lâcher certaines caractéristiques, qui est que la série est quand même tournée comme un documentary, c'est-à-dire un faux documentaire. Donc ça, on dit, on lâche, c'est trop compliqué, le public comprend pas, la fameuse phrase, le public comprend pas. Alors là, vous êtes mort, c'est que c'est terminé, vous pouvez avoir une bonne idée, ça sert à rien, il faut faire simple, il faut faire basique, il faut pouvoir se poser dans son pouf le soir et pas réfléchir. Résultat des courses, on se retrouve avec 6 épisodes, 8 épisodes, 6 épisodes, mais vraiment mauvais, parce que du coup, tout ce qui a été construit à l'époque...
En vrille, de toute façon, enfin, il n'y a plus...
Oui. Ce qui était terrible en plus, c'est que je me rappelle que j'avais vu à une projo, j'avais vu sur le premier ou les deux, je pense que le premier, et c'était pas terrible, mais je me disais, bon, c'est une réintroduction, et après ça va aller, quoi. Et sauf qu'en fait, non seulement ça n'allait pas après, mais de l'épisode en épisode sur les 6, ça empire à chaque fois, quoi.
C'est-à-dire qu'à la fin, tu te retrouves avec une histoire de réseau de prostituées dans un château...
Je veux dire, déjà, un réseau de prostituées dans Fais pas si, fais pas si,
quoi. Où ils se retrouvent tous, parce qu'ils amènent les gamins pour aller voir ce truc, et, enfin, pour aller...
À courir avec la ribambelle de gamins entre les chambres froides, on a déjà parlé.
Voilà, qui était la vieille voisine, dont la mère...
Qui a été morte assassinée, mais en fait, elle est pas morte.
Mais non, voilà, qui s'est fait passer pour morte, etc. Voilà, là, c'est juste, tu t'enlises, en fait. Donc forcément, ils pouvaient pas se tirer... vraiment d'un truc de leur saison.
Et en plus, tu flingues un casting qui est vachement bon, qui est vachement bien utilisé les autres moments. C'est-à-dire Salomon, Gélinas, Bonneton, qui sont quand même. Tonquédec, les quatre sont quand même très très bons. Les gosses sont supportables, c'est super rare en France.
Ouais, non, même bon, hein, sur ça, il y en a quelques-uns.
Même mondialement, généralement, les gosses.
Ouais.
Non, il y en a quelques-uns qui commencent.
J'aime le mouvement de Moulinet.
Ah, je sais pas, hein.
Donc pour le coup on se dit bon bah là merci hein, t'entends Jim Morrison, this is the end, c'est terminé. Et puis finalement je sais pas ce qui s'est passé concrètement dans la production. Parce que Anne Gaffieri était déjà partie à la fin.
Non, c'est Anne Gaffieri qui a supervisé la saison 2. Ouais. C'est la créatrice de la série, donc c'est ça qui. Après, enfin voilà, fin, la saison 2 de Fais pas ça, c'est vraiment l'exemple type de la chaîne française qui interfère en voulant plaquer ses recettes de bonne chaîne française qui sait c'est quoi que son public il veut.
Qui va gonfler à l'hélium quelque chose.
Et qui du coup fait vraiment de la grosse bouse, quoi. Et le miracle, c'est que à France 2 et à France Télé, ils s'en sont rendus compte, quoi. Alors, ce serait super intéressant un jour d'essayer d'avoir quelqu'un de France Télé qui nous parle de ça. Mais il y a eu ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils avaient pété un truc, quoi, et que c'était pas bien et qu'il fallait pas faire ça.
Peut-être chez Elephant qui se sont dit bon, en même temps là.
Elephant a pas le pouvoir par rapport à France Télé.
Je pense pas qu'Elephant. Enfin, je pense qu'ils étaient conscients sur la saison 2 qu'en effet c'est pas ce qu'ils auraient fait au départ.
Quand tu vois des interviews
de production fiction phare, c'est la seule.
Oui,
bah, c'est comme ça qu'ils se sont lancés, c'est leur première fiction.
C'est leur. Mais derrière, après, quand tu renouvelles ta série et que en gros on dit d'accord, on la renouvelle, mais on veut ça.
Ils sont pas en position de force.
C'est pas eux qui dominent. Hein.
Anne Gaffieri, elle explique bien, en l'occurrence, elle a fait des interviews où elle explique bien que dans la deuxième saison, ils n'ont pas pu faire le format documentaire, etc. Et que tout ça, c'est des impositions, des trucs imposés par la chaîne. Et que, enfin, juste dans l'interview, je pense que c'est une interview qui a été publiée sur Spin-Off, si je ne me trompe pas, elle expliquait bien que ça prouvait qu'en prime time, sur une grande chaîne, on avait beaucoup moins de liberté que ce qu'ils avaient pu avoir dans leur petite case de 19h, qui était peut-être un peu bizarre parce qu'il n'y avait jamais de fiction française à cette époque-là. Mais en attendant, à part sur le format où la chaîne avait déjà merdé, créativement, on les a laissés faire ce qu'ils voulaient, quoi. Et donc voilà, enfin là c'est vraiment voilà la chaîne qui a intervenu.
Et là on se retrouve avec deux saisons, la 3 et la 4, qui sont très bonnes, ouais, cet automne, qui étaient reprises en main par Chloé Marsay, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Et effectivement là on en revient au cœur de la fiction, quoi, qui est ses personnages, qui est une chronique familiale dans laquelle on peut jouer sur le choc des cultures de manière assez ludique, parce qu'en plus on fait en sorte que la belle fille boulet finit avec un des fils le pique, donc ça permet finalement de faire une bonne grosse théorie du Big Bang classique mais efficace, parce qu'on retrouve la qualité d'écriture et qu'il y a la vraie volonté dans l'équipe d'écriture de faire évoluer son matériel, quoi.
C'est ça, il n'y a plus du coup de fil rouge plaqué à la mort moelle neuve.
Ah là, ouais, encore que la saison 4, tu te dis que quand Cavana est là, tu te dis, bon, c'est un peu pour appâter le chaland. Ça marche plutôt bien, mais...
C'est vraiment très très en fond,
ouais,
temps, quoi.
C'est un peu à part, mais quoi. C'est aussi le côté, j'ai l'impression que c'est aussi le côté introduire un nouveau voisin pour renouveler un peu. Bon, après, c'était peut-être pas forcément le plus... Il n'est pas forcément super exploité, et en même temps, tant mieux, parce que c'est limite pas nécessaire. Il y a quelques moments drôles avec eux, mais voilà. Mais par contre, ce qui vraiment a retourné la saison 4, c'est ce qui a été... Bon, je crois qu'on en a déjà parlé, en plus, c'est la bascule, l'inversion entre les deux familles, au niveau de la situation, en fait, familiale. Le côté... Je continue, d'accord, non, je vous vois tous pendu à mes lèvres. Le côté...
Valérie Bonneton se retrouve clairement un peu en position d'être celle qui fait vivre le foyer, et du coup son mari doit un peu gérer les enfants, et il n'a pas du tout l'habitude, parce que c'est quand même le patron des robinets binets, et il répète toutes les...
Le numéro 2 des robinets binets.
Pendant que, le personnage d'Isabelle Gélinas, qui était un peu l'executive woman, se retrouve à la maison, pendant que Denis Boulet, lui, développe la méthode Boulet. Et se retrouve à être celui qui fait vivre le foyer. Et du coup, ça fait bouger les plaques de manière assez classique, encore une fois, mais efficace.
Oui, ça permet de renouveler sans être trop violent et sans vouloir faire les brins. C'est relativement fin.
Ça permet aux acteurs de ne pas s'emmerder non plus. Donc dans un contexte français où au bout de deux saisons t'en as marre de jouer le même personnage, parce que bon, ça va bien, là au moins tu te dis moi t'as quelque chose à faire, et puis voilà.
Non, et puis même chacun des personnages, ça leur redonne, comme tu disais, Bonneton, là avec le coup de la mairie, avec en plus ce maire qui la trouve incroyablement séduisante et qui lui saute dessus dans l'ascenseur, tout ça donne des petits moments bien poussillants, parce qu'il faut être quand même excellent dedans.
Et dans le programme, c'était quoi déjà? Elle voulait se faire élire parce qu'elle avait l'idée d'une tarte géante ou d'une crêpe géante.
Elle a donné l'idée de la crêpe géante pour la Chandeleur.
Ça, c'était son argument de campagne derrière.
Ouais. C'est dur les vieux.
Et là, je m'en veux de pas regarder la série. Hein. Je rattraperai mon retard un jour.
Mais franchement, le coup de la crêpe violente est génial. Mais même tous ces petits trucs là avec les crottes de chien.
Oui, c'est ça, tout l'arc où elle part.
Elle traque
les crottes de chien, elle met des petits drapeaux dedans pour sensibiliser les
gens. Elle les ramasse pas, du coup, elle met des drapeaux pour que les gens prennent conscience. Ou alors, quand elle regarde la vidéo surveillance pour les gens qui balancent des trucs.
Mais toi, t'as pas ramassé, c'est dans la rue, voilà.
Le mec qui se demande ce qui se passe. Et en plus, du coup, elle en profite parce qu'après, il y a des gamins qui passent et elle leur dit et tu mangeras aussi 5 fruits et légumes par jour. Et toi, c'est le truc.
Dans le même épisode, on l'amène à intervenir au lycée où il y a sa fille, et il y a marqué on vous hanque, je crois. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, on vous hanque? Il y a toute une tirade formidable dans la.
Son personnage est vraiment excellent, je trouve, cette saison. Il m'a vraiment beaucoup fait rire.
De toute façon, Valérie Bonneton est une excellente
actrice. Oui, non, mais en plus, on lui donne de l'argument, ça aide.
Bon, voilà, fait passer à sauver des eaux, comme quoi le dérapage peut être contrôlé.
Mais alors, la saison 4 de Miss Suisse, ça se trouve, elle sera bien?
Ouais, j'y crois pas. Hein. Non, déjà, si tu veux, il y a toujours ce problème, on a viré les acteurs, il n'y a plus rien, Overman, il n'a plus de jus, je vois pas comment il peut le retrouver. Ils n'ont pas annoncé qu'il était viré, qu'il le repensait par un nouveau scénariste.
Non, puis donc, ça risque pas, je pense pas.
Non, en plus, c'est un peu son truc, c'est ça, donc ouais. ça me semble pas gagné. Allez, on va vraiment les mentionner super en vitesse. Pour conclure, on a 2-3 autres séries qui sont comme ça parties en sucette. Whitechapel.
Whitechapel, saison 2. Pourquoi? Je me demande encore. Première saison, plutôt intense, plutôt dure. Bon,
série policière
sur la...
3x90.
Voilà, non, 3x... 3x1 heure. Sur la chasse d'un copycat de...
Jack Éventreur.
Plutôt bonne, qui peut justement... vous réconcilier avec mon acteur
Celui qui jouait Adam Carter, je vais pas retrouver.
T'enlèveras.
Ouais. Ça sera pas réconcilié, c'est pas grave.
Des personnages bien écrits, très bien interprétés, vraiment une ambiance assez dure. Et puis une deuxième saison où on a l'impression que c'est la parodie de la première, où tous les éléments qui étaient, enfin le personnage qui était une sorte de mec rongé de toc, personnage central, devient un alcoolique. Celui qui était le spécialiste de Jack l'Éventreur devient un spécialiste de tous les tueurs en série et apparaît dans une vidéo ridicule des années 80, une sorte de brushing. Et on a vraiment l'impression, là encore, hein, je crois que le dénominateur commun, assez souvent, c'est la transgression autour des personnages, le fait de plus reconnaître les personnages qu'on a aimés. Ben là, c'est flagrant, et la saison de Dwight Chappell est en ça un grand ratage.
Et moi, je voulais citer Survivors. Alors là, il y a Dominique qui rigole, parce que pour lui, c'était pourri dès le premier épisode.
Dès le premier.
Moi, enfin, c'était pas la série du siècle, mais il y avait quand même vraiment plein de bonnes choses. Moi, j'adorais l'ambiance de cette série. La première saison, je la trouvais vraiment pas mal du tout. La deuxième saison, elle commence plutôt pas mal. Et là, c'est le cas du fil rouge.
Et là, c'est le drame.
Ouais, qui devient voilà, le fil rouge qui grossit comme une tumeur sur une série où il n'a pas sa place. Et puis, puis en plus, voilà, enfin. C'est vraiment, enfin, donc il y a eu un Survivors, il y a eu un virus mortel qui a détruit 95% de la population du monde, et on suit un petit groupe de survivants, etc. Et donc là, enfin voilà, le fil rouge cliché à mort sur la vilaine entreprise pharmaceutique machiavélique qui a fabriqué le virus et que ça lui a échappé à son contrôle. Mais les dirigeants de l'entreprise, ils ont réussi à survivre et ils sont partis aller vivre je ne sais où. Et ils contrôlent machin, ils envoient des avions, des hélicos, je sais pas quoi, truc bûche, pour contrôler, pour trouver telle personne qui va être l'agent immunisé, qui est évidemment le personnage principal de la série, parce que sinon c'est pas drôle. Ça, parce qu'elle est la seule qui a été contaminée, qui a eu des symptômes, mais qui a survécu quand même à la maladie. Comment ils arrivent à être au courant de ça, enfin.
Ouais, non, mais c'est normal.
Je pense que c'est typiquement le truc où il y a rien à comprendre et où du coup, vraiment, ce qui faisait cette série, c'était, si on rentrait dedans, c'était la chronique super intime, super quotidienne d'un groupe de personnages dans la fin du monde, quoi. Il y avait des très très beaux personnages. Moi, ce duo entre le fils d'un prince arabe de je sais pas où qui était blindé de thunes, et qui se retrouve à prendre tout son aile un petit arabe de 10 ans qui est pratiquant, qui fait des gros yeux qui fait au l'autre parce qu'il fait pas la prière, qui est super hédoniste et tout. Il y avait ce duo qui était super intéressant. Bisley qui s'appelle, qui jouait un mec qui s'était échappé de prison grâce au virus, qui était ce personnage un peu attachant, un peu menaçant, qui était assez intéressant. Bon, t'avais Patterson Joseph qui jouait une quiche, comme d'habitude Patterson Joseph, mais c'est un peu de sa faute. Et t'avais l'héroïne à laquelle Dominique adhérait pas, j'arrivais à être en empathie avec elle plus ou moins, même si je suis d'accord sur le fait que on avait un groupe de héros qui avait rien à faire ensemble et qui se retrouvent ensemble juste parce que l'héroïne a dit « Mais parce que j'ai dit, il faut !» Voilà.
Allez, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Ah, d'accord.
Mais voilà, mais après, par la suite, vraiment, on part dans cette intrigue de con, de labo, de machin, de truc, et c'est n'importe quoi. Et le final de la saison 2 est une catastrophe.
C'est un cliffhanger ou c'est une...
Ouais, il y a un cliff en plus, mais ouais. Au-delà de ça, on sent que c'est le chaos général en fait. C'est dingue. Il y a une grande scène de. Alors, le truc tartare à la crème, il y a une grande scène de confrontation sur un tarmac d'aéroport. Entre le grand chef de l'entreprise pharmaceutique et nos héros de survivants, parce que le grand chef veut enlever Abby et son fils, et ils s'échangent le fils, je sais pas quoi, le fils qu'elle recherche depuis 2 ans. Et donc cette scène, c'est vraiment le chaos général, et il y a des plans de loin, en fait, qui coupent un peu le truc, et la HD ne pardonne plus, et tu te rends compte que les plans de loin dont ils servent pour couper le truc, c'est des plans qui, en fait, de la discussion. Tu vois, les personnages parlent et on a coupé le son parce qu'il fallait mettre une respiration. Donc tu sens que la prod, l'écriture, cette dernière épisode, ça a été le chaos intégral. Et finalement, ça se termine sur un cliffhanger parce que le fameux repris de justice arrive à ce qui a été blessé parce qu'on a tiré dessus, arrive malgré tout à se faufiler dans la cale de l'avion et il part dans l'endroit mystérieux où les survivants sont réunis et t'en as juste rien à foutre et la série est annulée et c'est tant mieux.
Je pense que tout le monde en avait rien à foutre en fait.
Grave. C'était pas le sujet quoi, vraiment.
Ça a l'air aussi bien que la chanson « Et si on devait mourir demain » avec Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo.
Pareil, ni même niveau de qualité.
T'as trouvé ton générique, tu vois.
Ouais, pas sûr quand même, on l'écoute après.
T'as peur.
Bon, et ben écoutez, on va en rester là. On vous a bien du tout ruiné plein de séries là. On vous dit à très bientôt. Et bonjour chez vous.
Salut.
Au revoir.